Oui, à la fin du cours, le père Marie-Jean vous dira au revoir et vous embrassera. Je terminerai 5 minutes avant, ou après. Il nous reste 2 articles pour terminer cette question de la simplicité que vous avez sans doute trouvée difficile, ce qui est normal. C'est ce qu'il y a de plus difficile, d'être simple, puisque c'est l'apanage du principe et de ce qui est premier. Alors, aucun d'entre nous, nous sommes premiers. Nous avons des petites ambitions d'être premiers par l'orgueil, et c'est la caricature de la simplicité. Et je crois que l'orgueil est vraiment la caricature de la simplicité. C'est vraiment l'orgueil qui fait cette espèce de grimace par rapport à la simplicité. Et c'est important alors de saisir ce que représente ce mystère. C'est un mystère, la simplicité. Il faudrait comprendre comment la simplicité affecte ce qu'il y a de plus profond dans la personne humaine. Alors, comme la personne, c'est l'esprit et c'est l'être, est-ce que la simplicité touche l'esprit ou touche l'être ? La simplicité touche l'être et par l'être, l'esprit. C'est premièrement une manière d'être de la réalité, dans son point de vue profond d'être. Et ensuite, ça touche l'esprit. Nous, au point de vue psychologique, on parle tout le temps de la simplicité au niveau psychologique. Alors, on dirait que c'est l'esprit, parce qu'on n'a pas assez de sens métaphysique. Mais si on avait le sens métaphysique, on comprendrait que la simplicité touche l'être dans ce qu'il a de plus profond. C'est ça la très grosse difficulté que nous avons, c'est de saisir en profondeur l'être et que la substance qui est principe d'être, qui est première dans l'ordre de l'être, la substance demande par elle-même ce mode de simplicité. Et toute cette question tourne autour de la substance. C'est ça qui est très étonnant, si on est attentif. C'est pour ça que c'est difficile pour nous de saisir, parce que la source de la simplicité, c'est la substance. Et qualifier la substance de simple, c'est de montrer justement une substance qui a cette propriété d'avoir une totale autonomie. Au fond, on est simple dans la mesure où il y a en nous l'autonomie. C'est la simplicité qui est peut-être, alors de ce point de vue-là, l'apanage de la personne humaine. De la personne tout court, disons pas de la personne humaine, mais de la personne, puisque ça touche la substance. Et ça touche la personne dans son être. Et je crois qu'en effet, que c'est peut-être pour nous la manière la plus profonde de saisir ce que représente cette simplicité de Dieu. Dieu se présente à nous comme un être, comme une personne absolument simple. Alors que toutes les autres personnes que nous connaissons sont terriblement compliquées. Et le péché a augmenté notre complication. C'est pour ça qu'au fond, nous sommes si inclinés à mentir. Parce que le mensonge, c'est juste l'inverse de la simplicité. Un camouflage. On joue deux jeux. C'est très vrai, il faut essayer de saisir ça au point de vue profond, pas uniquement au point de vue psychologique. Au point de vue psychologique, vous voyez, on voit très bien la pureté, la limpidité, tout ça. C'est beau, c'est très beau. On voit les grands artistes qui, à la fin de leur vie, visent la simplicité. Matisse, il le disait d'une façon si forte et si étonnante d'arriver à une espèce... C'est pas toujours vrai, du reste. Parce que je crois que l'art implique nécessairement une richesse qui implique une complexité. On ne peut pas, nous, avoir les deux en même temps. On est obligé d'opter. La spiritualité du bouleau et la spiritualité du cèdre. Jean Vanier dit la spiritualité du lapin et la spiritualité de la girafe. Parce qu'il est un peu girafe, alors il comprend. Il regarde. Et la spiritualité du lapin, c'est les tout petits qui voient, qui broutent l'herbe au bout de leur menton. Hein, ils broutent l'herbe. Et tandis que la girafe, on voit très bien. Moi, j'aime mieux dire le point de vue du bouleau et du cèdre. Parce que le cèdre, c'est un peu, quand on est en dessous d'un cèdre, hein, on voit plus grand chose. Le bouleau, ça ne gêne pas beaucoup. Ça pousse merveilleusement, extraordinaire. Et c'est vrai qu'on est obligé toujours d'opter. Il y a une spiritualité de la simplicité, il y a une spiritualité de la perfection. La spiritualité de la contemplation vise toujours vers la simplicité. Ce qu'il y a de plus virginal en nous, c'est la simplicité. Et le point de vue apostolique vise vers le cèdre. Vous voyez, pour l'hôtellerie, il y a la spiritualité de la simplicité. Recevons pas trop de monde. Hein. Et puis le cèdre, on enveloppe tout le monde. C'est tout à fait, c'est constamment, il y a une antinomie. C'est ça qui est intéressant dans les attributs divins. C'est que les attributs divins nous donnent une vision de sagesse sur toutes nos imperfections. Et sur toutes nos nostalgies. Nous avons la nostalgie de la simplicité. Je crois que c'est la nostalgie la plus profonde qui est en nous. Vous voyez, dans l'amitié, on a une nostalgie d'être d'une limpidité absolue à l'égard de son ami. On ne sera jamais. On a beaucoup de peine d'accepter qu'on ne pourra jamais être totalement simple. Pourquoi ? Parce que c'est forcé. On ne peut pas tout dire. Alors quand vous voulez tout dire, vous vous embarrassez par des conversations infinies, infinies. Le jour où vous avez compris que vous ne pouvez pas tout dire, alors vous gardez le silence. Et vous dites, la communication la plus profonde, elle se fait dans le silence. Bien plus que tous les bavardages. Les bavardages, ce sont des bavardages. La simplicité touche l'éternité. L'éternité, c'est le silence. Et c'est le silence. Le silence touche la simplicité, vous voyez, c'est très profondément. Et c'est une des manières de regarder le silence, de regarder la simplicité qui se met au plus intime de notre âme. Alors, article 7. L'article 7 a ceci de tout à fait particulier, c'est même unique dans la somme de théologique de saint Thomas. Je crois que c'est unique. C'est très rare que saint Thomas éprouve le besoin de faire une synthèse. Après avoir analysé, il éprouve le besoin de faire une synthèse. Article 7, c'est la synthèse. Article 8, c'est le dernier point de vue, très intéressant, très important, qui reprend comme une conséquence. Saint Augustin affirme, Dieu est vraiment et souverainement simple. Vere et summe simplex est. Alors, pour ceux qui s'intéressent au langage latin, pour ceux qui s'intéressent à l'aspect qualitatif, des choses, vous voyez que saint Augustin dit vere, summe, et saint Thomas dit omni. C'est très curieux. Ce qui est intéressant ici, dans ces articles sur la manière d'être de Dieu, c'est que saint Thomas dira summe pour la bonté. Et omnino pour la simplicité. Saint Augustin, qui est moins précis, un bon rhéteur, merveilleux, un rhéteur, un saint rhéteur, mais c'est un rhéteur quand même, Saint Augustin, c'est sûr. Il suffit de lire un peu pour s'apercevoir. Ah, attention, quand ça va se terminer, hein, ça se multiplie, il faut quelquefois lire 10 pages avant de trouver une petite perle merveilleuse. Ça vaut la peine de trouver la perle. Simplement, limpidité. Alors il dit omnino simplex. Ça, je trouve ça il cite saint Augustin, et puis Diom Nino, il ne dit pas verret summe. Ça, c'est extraordinaire. Omnino simples. C'est tout à fait simple. C'est pas vraiment simple, c'est pas summe simple, c'est omnino simples. Il faut comprendre la nuance. Pour ceux qui ont la perspicacité de l'intelligence, comprennent la différence qui est entre vere, summe, simplex et omnino simplex. C'est très curieux, ça. C'est des petites choses qualitatives. Hein. Alors, on doit les sentir. On doit les sentir, pas esthétiquement, hein. Intellectuellement, je dirais d'une manière contemplative, on doit sentir la différence qu'il y a. Alors, ça met du temps. Ça met du temps. Quand saint Thomas a écrit ça, il avait un certain âge. Et ça met du temps avant de découvrir. Mais il faut saisir. C'est pour ça que je l'indique. Que Dieu soit parfaitement simple. Vous voyez la traduction. Il n'a pas compris. Respondit Chandum quod Deus omnino esse simplicem. C'est pas la même chose d'être tout à fait simple que d'être parfaitement simple. Vous voyez, parfaitement simple, c'est le troisième. Hein, c'est le troisième qui dit parfaitement. C'est ni veri ni summe, ni omnino. J'en veux encore mieux veri summe que perfecté. Ça, c'est la dégringolade. Hein. La dégringolade perfectée, parfaitement simple. Omnino simplex. Il est tout à fait simple. Et là, il y a quelque chose qui est très important à saisir. Il est tout à fait simple. Il a cette qualité particulière. Que Dieu soit tout à fait simple, c'est ce qu'on peut prouver de plusieurs manières. Multipliciter potes esse manifestum. Donc, différentes voies qui conduisent à ça. Et tout d'abord, en rappelant ce qui précède. Alors, on rappelle ce qui précède, voyez. Donc, il va donner le résumé. Primo quidem per supra dicta. C'est très rare. Encore une fois que saint Thomas fait ça. C'est très rare qu'il ramasse toutes les petites miettes de pain pour en faire un pain. D'habitude, il continue son analyse et puis c'est tout. Ici, il le fait. C'est pas que c'est le premier article, la première question, comme Petit Jean, c'est ce qu'on connaît le mieux. Hein. C'est cette question qui est la plus merveilleuse. D'une certaine manière, au point de vue théologie scientifique, je crois que c'est la plus merveilleuse. C'est là où on voit le mieux la structure de la théologie scientifique. Et qu'on comprend le mieux le point de vue de la négation et l'éminence dans la négation. Vous voyez, l'éminence. Omnino simplex. Ça, c'est l'éminence. À partir de toutes les négations, apparaissant. Car, puisque Dieu n'est pas composé ni de parties quantitatives, n'étant pas corporelles, ni de forme et de matière, puisqu'en lui le suppôt n'est pas autre que la nature et la nature, et n'est pas autre que la nature et la nature que l'être. Puisqu'il n'y a en lui composition ni de genre ni différence, ni de sujet ni d'attribut, il est manifeste. Donc, vous voyez, il reprend tout. Toutes les divisions que vous pouvez penser, aucune ne sont en Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Toutes les divisions que vous pouvez constater en vous, faites l'état de toutes vos divisions. Hein. C'est bon comme examen métaphysique. Hein. Toutes les divisions, toutes les limites qui sont en vous. Toutes les limites, cherchez bien, vous trouverez là. Elles sont toutes résumées. Ça c'est un chef-d'œuvre d'avoir fait ça. D'avoir résumé toutes les limites. Alors, quand on dit que saint Thomas n'a pas le sens de la limite, et que c'est les modernes qui l'ont, il donne le résumé ici, de toutes les limites possibles. Et alors, à partir de là, il est manifeste que Dieu n'est composé d'aucune manière, mais qu'il est absolument simple, omnino simplex. Donc il y tient, vous voyez, en face du verre, et on traduit parfaitement. Alors là, il dit absolument simple, c'est mieux. J'aime mieux. Absolument simple, ça traduit mieux l'omnino. Parce que absolument simple, ça traduit l'aplos. Pour ceux qui comprennent mieux le grec, hein, c'est aplos. Aplos, c'est très platonicien, néoplatonicien. Christophe n'en parle pas beaucoup, il l'emploie quand même. Aplos, c'est simpliciter. C'est comme ça, on va le traduire en latin. Simpliciter. Alors vous comprenez, simpliciter simplex. Hein, vous voyez, il ne dit pas simpliciter simplex, mais au fond, omnino simplex, ça veut bien dire ça. Ça veut dire bien la simplicité dans ce qu'elle a de plus elle-même. Donc la simplicité dans ce qu'elle a de plus radical et d'outil. Omnino simplex. Alors, simpliciter aplos, absolument. Je veux bien qu'on traduise aplos, ça peut se traduire simpliciter absolument. Ça t'a dit omnino. Les deux se tiennent. C'est quelque chose d'assez particulier à bien saisir. Ensuite, donc, premièrement, il résume tout. Mais il résume tout dans un regard de contemplation. Hein. Il est tout à fait simple. Ensuite, tout composé est postérieur à ses composants et dans leur dépendance. Or, Dieu est le premier être, ainsi qu'on l'a fait voir. Donc, il ne peut pas de composition. Puisque... Alors ça, c'est une raison qu'il ajoute. Hein. C'était déjà impliqué dedans. C'est pour nous dire que l'apanage du principe, c'est d'être simple. L'apanage du premier est simple. Quand vous êtes premier dans un ordre donné, vous êtes simple. Dans cet ordre-là. Et Dieu, c'est dans tous les ordres. Omnino simplex. En outre, tout composé a une cause. Car des choses de soi diverses, ou des choses diverses par elles-mêmes, ne concourent en un que par une cause unifiante. Ça, c'est très intéressant. C'est le grand principe qui commande toute l'induction. Alors, retenez-le. C'est intéressant comme chose. C'est ça, la diversité et l'unité. Quand vous voyez une diversité ordonnée, il faut nécessairement poser un principe et une cause. Alors c'est intéressant, tout composé, c'est intéressant que saint Thomas le pose ici, vous voyez, à propos de la simplicité, parce que justement, je ne peux rien induire de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Dieu n'est pas un point de départ dont on se sert pour induire quelque chose. Dieu, on le contemple. Dieu est au-delà de l'analyse. Tout à fait simple. Vous ne pouvez pas analyser la simplicité. Vous ne pouvez pas décrire la simplicité. Vous la contemplez. C'est ça qui est merveilleux à saisir. Hein. Dieu ne peut pas être second. Dieu, nécessairement, il est au-delà de toutes les causalités. Or, Dieu n'a pas de cause, ainsi qu'on l'a vu, étant première cause efficiente. Alors, c'est intéressant, première cause efficiente, voyez. C'est curieux que saint Thomas dise ça. C'est la première cause efficiente, c'est ça qu'il a retenu avant tout. On aurait peut-être pu dire, il est la cause ultime, la cause finale, hein. Parce que la cause ultime, la cause finale, est encore plus ultime que la cause efficiente. Évidemment, la première cause efficiente ne peut pas avoir une cause finale extrinsèque, c'est sûr. Mais c'est encore mieux, cause finale. De plus, dans tout composé, il y a puissance et acte. Ce qu'on ne peut dire de Dieu. En effet, dans le composé, ou bien une partie est en acte à l'égard de l'autre, qui est puissance, ou, en tout cas, les parties sont toutes comme en puissance à l'égard du tout. Donc Dieu est acte pur. Enfin, alors notez bien toutes ces raisons, parce que faut pas croire que c'est saint Thomas vide son fichier. Hein. Vous voyez, c'est pas ça, c'est jamais ça. Ça, c'est le journaliste qui vide son fichier. Pour tout dire, il faut tout dire, saint Thomas ne fait pas ça. Alors, premièrement, il fait la synthèse de toutes les compositions. aucune division. Deuxième raison, c'est pour avoir les raisons. Dieu est premier. Tout composé est postérieur. Dieu est premier. C'est l'apanage du premier. Oui, parce que c'est intéressant que Saint-Paul va souligner l'apanage du premier. Il y a un parallélisme très intéressant à faire ici, je vous le dis en passant, avec le livre Zeta d'Aristote. Ça paraît très curieux, mais c'est comme ça. Le livre Zeta d'Aristote, pour ceux qui connaissent ça, pour ceux qui connaissent la métaphysique d'Aristote, parce que c'est montrer justement comment un regard métaphysique nous permet d'aller plus loin dans la compréhension de Saint Thomas. Que dans le livre Zeta, Aristote saisit tous les premiers. Vient Saint Thomas ici pour essayer Dieu est premier, mais toutes les manières dont je regarde la priorité de Dieu, pour essayer de comprendre la manière d'être de la simplicité. Alors c'est intéressant parce que ici c'est au niveau de l'analyse. Le premier dans l'ordre logique, le premier dans l'ordre du venir, le premier dans l'ordre de l'être, le premier dans l'ordre. C'est tous les premiers. Alors c'est les premiers qui regardent les principes, tandis qu'ici c'est les premiers qui regardent les manières d'exister. C'est le premier dans l'ordre de l'essence, la manière d'exister. Dieu est libre, soumis à ses subsistances. C'est ça qu'on veut. Faire comprendre. Donc, il est premier. Troisièmement, tout composé a une cause. Dieu est sans cause. Contre Descartes, hein, sans cause. Ici, c'est le principe. Ici, c'est la cause. Eh bien, qui connaît la distinction entre principe et cause. C'est intéressant de se servir des deux arguments. Il est sans cause. Il est principe. De plus, dans tout composé, il y a puissance et acte. Donc, pas de puissance, sans puissance. Ça, c'est à la racine. S'il est premier, s'il est sans cause, c'est parce qu'il est sans puissance. Donc, acte pur. C'est évident que d'être tout à fait simple, ça caractérise l'acte pur. Enfin, cinquièmement, c'est un très bon, très bel article, ça. Un article très extraordinaire. Il reprend tout. Cinquièmement, enfin, un composé n'est jamais identique à aucune de ses parties, ce qui est bien manifeste dans toutes les formes de parties dissemblables. Car nulle partie de l'homme n'est homme, et nulle partie du pied n'est pied. Un orteil, hein. Coupé, hein, c'est pas votre pied. Quand il s'agit de toutes les homogènes, il est bien vrai que telle chose est dite en commun du tout et des parties. Et par exemple, une partie d'air et de l'air, et une partie d'eau et de l'eau. Mais d'aucune chose pourront se dire du tout qui ne conviendront pas à la partie. Ainsi, une masse d'eau ayant deux coudées, sa partie n'a plus deux coudées. Ainsi, en tout composé, il y a quelque chose qui ne lui est pas identique. Or, ceci peut se dire sans doute d'un être ayant une certaine forme d'existence, à savoir qu'il y a en lui quelque chose qui n'est pas lui-même. Comme dans un être blanc, il y a des qualités étrangères à la notion de blanc. On ne dit pas l'idée de blanc. Je ne sais pas si on vous a mis l'idée de blanc, mais ça ne va pas du tout. À la notion, à la ratio, c'est le fondement, à la réalité profonde. Mais dans la forme même, il n'y a rien d'étranger à cette forme. Dès lors, puisque Dieu est la forme pure, cum Deus sit ipsa forma, puisque Dieu est la forme elle-même, c'est ça qu'il faut dire, puisque Dieu est la forme elle-même, ou plutôt l'ipsum esse, nullo modo, d'aucune manière il peut être composé. Et cette raison, ce que saint Hilaire touche en disant Dieu qui est puissance n'est pas formé d'infirmité, lui qui est lumière n'est pas formé d'obscurité. Il est la lumière. Alors ici, voyez bien ce que saint Thomas dit, ipso esse subsistere. C'est la réduplication sur la forme. De la forme elle-même. Donc il est ipso esse subsistere. C'est le dernier argument pour la simplicité. C'est Dieu est l'essai, puisqu'on a vu que tout, l'essai c'est l'acte d'être, donc la conséquence. Vous voyez, c'est intéressant. Ici c'est acte pur, ici c'est tout l'essai subsistance. Il y a un lien. Principe, cause, acte pur, essai. C'est très très joli comme construction. Vous avez ces deux articles qui se tiennent, ces deux articles qui se tiennent. Celui-ci qui fait la synthèse. Bon, c'est très rare, on voit très bien que cet article, saint Thomas aime cet article, ça se sent. Il a contemplé la simplicité de Dieu. Celui qui a contemplé la simplicité de Dieu, eh bien, il essaie d'exprimer qu'au cœur de toute contemplation, au cœur de toute contemplation, il y a la simplicité de Dieu. Vous ne pouvez rien contempler de Dieu si vous ne contemplez pas sa simplicité. Parce que la simplicité, c'est la purification de tout. Vous rejetez tout ce qui n'est pas Dieu. Et alors, c'est l'exigence de la contemplation dans ce qu'elle est d'ultime, dans ce qu'elle est de plus profond. Alors, ça touche une soumise subsistante. Alors, c'est très, très fort comme attitude, vous voyez. Parce que vous avez, donc, ici, ça doit marquer la synthèse de toutes les divisions. Il montre que toutes ces divisions, aucune n'est en Dieu, donc il est absolument simple. Puis après, il revient sur les manières d'exister. La manière d'exister comme un principe. La manière d'exister comme une cause sans cause. La manière d'exister comme l'acte pur. La manière d'exister comme l'essai à l'état pur. L'ipso esse subsistens. Alors vous voyez que c'est intéressant que ici, cause et principe regardent avant tout ce qu'il y a de premier, c'est au-delà de quoi on ne peut pas aller. Et puis ici, c'est le point de vue de l'acte. Les deux modalités, l'acte pur, et puis l'essai, qui est une des modalités de l'acte. C'est pour ça qu'il y a une très grande harmonie dans cet article. Bon, je crois que vous avez compris, j'espère, contempler, reliser cet article, ça vaut la peine. D'essayer de contempler la simplicité de Dieu, c'est la grande manière de purifier pleinement et totalement notre intelligence. Notre intelligence a une nostalgie de la simplicité. C'est la seule manière de toucher les grands artistes. Ils ont la simple... C'est ça le génie. Le génie, c'est celui qui tend vers la simplicité. Vous voyez, le petit savant est grand savant. Les petits savants, c'est toujours très compliqué. Les grands savants, on ne sait pas pourquoi, mais c'est... On dit c'est génial, hein, que ça veut dire. Hein, quand on dit c'est génial, hein. On touche justement cet aspect qualitatif d'au-delà de la composition. Et puis on touche la lumière. Vous voyez, au fond, c'est la lumière. Ici, c'est ça. Si Dieu est la forme elle-même, pour nous, la forme la plus sensible, hein, et la plus pure, c'est la lumière. Ça, c'est symbolique, évidemment. C'est un langage métaphorique. Mais c'est la lumière. Il est la lumière. Et c'est vrai que pour nous, c'est la lumière qui est ce qu'il y a de plus simple. La lumière, c'est ce qu'il y a de plus simple pour nous, dans l'ordre de notre sensibilité. C'est la lumière qui est le plus simple. C'est, les peintres ont le sens de la lumière. Et justement, c'est pour ça qu'ils tendent vers cette simplicité. Ils savent qu'on ne peut que suggérer la lumière. La lumière ne se peint pas, ne se décrit pas. Mais elle est présente. C'est une présence. Dans un langage heideggerien, il y a la présence. Vous voyez, c'est comme ça se retrouve, ça. C'est la présence. La présence pure. Dieu, c'est la présence pure. Dieu, c'est la lumière pure. Dieu, c'est l'ipso esse subsistens. Voilà ce que ça veut dire, hein, au point de vue métaphysique. Parce que, point de vue métaphysique, votre intelligence ne vibre pas encore suffisamment, point de vue métaphysique. Alors, je la fais vibrer du côté de la lumière, et je la fais vibrer du côté de la présence. Parce que c'est plus proche de nous, ça. Dieu, présence pure. Il est absolument simple. Ça, c'est foudroyant. Hein? Absolument simple. D'habitude, on voit une partie d'une présence. Je vois un œil. Je vois ton œil. Je vois ton nez. Ton nez, ça, c'est une partie. Tandis que la présence. Et au-delà de toutes les parties, vous décidez. C'est aussi simple. Absolument simple. Acte pur, sans cause, premier. Oui, la seule chose, hein, les deux choses qui sont positives et les deux choses qui sont négatives. C'est très curieux là aussi. Les deux négations et les deux éminences. Les deux éminences, c'est le principe et l'essai. C'est les deux éminences. C'est très très curieux. C'est beau comme. C'est très très structuré, un truc comme ça. Si vous le regardez attentivement, vous voyez que c'est très très pensé. Et c'est pas étonnant, hein? C'est la simplicité. Donc ça doit être très très pensé pour arriver à donner ce sens de l'émergence d'au-delà de toutes les compositions. Saisir ce qui est absolument simple, capter la lumière, la forme parfaite de la lumière, et l'au-delà de la lumière laissée. Alors voyons tout de suite l'article suivant. Je ne dis pas que c'est une dégringolade, mais c'est moins contemplatif. Dieu entre-t-il dans la composition des autres êtres? Dieu ne peut pas être un être qui se compose avec les autres. Impossible. Nous, nous nous composons toujours, ce qui permet de coopérer, mais quelquefois aussi qui permet des aliénations. Dieu ne peut pas, c'est absolument impossible, c'est contraire à son être. Le même Denis dit, il y a de sa part ni contact, ni aucune alliance avec les parties à mêler ensemble. Il est dit, aussi au livre du Décausis, le livre du Décausis, vous savez bien, c'est de Proclus. Saint Thomas croyait que c'était d'Aristote. Hein. Il pensait, moi, ce qu'on dit, je sais pas, c'est les historiens qui disent ça, que la cause première régit toute chose sans se mêler à elle. Il n'y a pas de mélange. C'est la politique qui fait des mélanges. Il n'y a pas de mélange en Dieu. Aucun mélange. Il est totalement simple. Alors, il ne peut pas y avoir de mélange. La cause première, vous voyez bien, on est toujours en face du premier. La cause première régit toute chose sans se mêler à elle. Dieu est présent à tout sans se contaminer. Ce n'est pas la spiritualité des contacts, vous voyez, c'est tout à fait autre chose, hein? c'est tout à fait différent. C'est la spiritualité de la transcendance. C'est la spiritualité de la limpidité, de la pureté. C'est la spiritualité de la simplicité. À ce sujet, trois erreurs se sont fait jour. Alors saint Thomas va ici, en théologien, c'est un article tout à fait théologique, vous voyez, très très différent. Là, il est dans la tradition. Il s'arrive en termes. Il n'a pas mis ça au point de départ. Il a été, ça c'est le regard de saint Thomas, c'est la théologie scientifique. Dans une théologie historique, on ferait l'inverse. Oui, c'est l'ordre tout à fait inverse. Là, il me semble, dernier tiroir, tous les chiffons savent qu'on met là. Alors on est tous ceux qui n'ont pas compris la simplicité de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas compris la simplicité de Dieu, alors on les met là dans le fond. Et c'est vrai, c'est toujours un manque de simplicité de Dieu. Tout panthéisme est un manque de regard de la simplicité de Dieu. C'est pour ça que c'est si important d'avoir cette contemplation de la simplicité de Dieu pour éviter tout panthéisme. Parce que c'est par la simplicité de Dieu que je touche la transcendance de Dieu. Vous voyez, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est très très important. Parce que nous sommes tous un peu hégéliens. Or, l'hégélianisme fait qu'on perd le sens de la transcendance de Dieu et qu'on tombe dans le panthéisme, un panthéisme spirituel, mais qui est tout proche du panthéisme matériel. C'est le panthéisme de la cause formelle, de l'intelligibilité des pensées. Dieu est une idée. C'est beau d'adorer une idée, hein. Surtout quand elle est dans l'intelligence de Hegel. D'adorer l'esprit de Hegel. Mais non, c'est pas ça, c'est différent. Dieu n'est pas une idée. À ce sujet, trois erreurs se sont fait jour. Il en est qui ont dit Dieu est l'âme du monde, comme on le voit dans la Cité de Dieu de saint Augustin. C'est pas saint Augustin qui le dit, hein. Et à cela se ramène ce que certains affirment, à savoir que Dieu est l'âme du premier ciel. D'autres ont dit Dieu est le principe formel de toute chose. Et telle fut, dit-on, l'opinion des partisans d'Amoric. Alors demandez au professeur de l'histoire de l'Église, hein, de vous situer Amoric. Enfin, je pourrais vous dire une petite histoire sur Amoric, ça ne vous apportera pas grand-chose. Enfin, vous l'aurez oublié immédiatement. Enfin, la troisième erreur fut celle de David de Dinan, qui en vain, vous voyez, saint Thomas retient, il met des décorations à tous ces gens. Il y a une petite décoration, ils ont fait de grosses erreurs. Enfin, la troisième fut celle de David de Dinan, qui, en vain, à ce comble de folie, d'appeler Dieu la matière première. Mais il ne faut pas oublier que pour certains, la matière première est esprit. Ça, c'est une très vieille erreur, c'est la vieille erreur de David d'Averroès, il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors, on ramène l'esprit à la matière première, et on dit la matière est spirituelle. Alors, si on dit que la matière est spirituelle, voyez, on arrive à ça. Et ça, c'est la vieille erreur de David de Dinan. C'est très important, ça. C'est très important de bien voir que le point de vue du panthéisme, c'est justement de faire que les deux causes, matérielles et formelles, vont devenir des absolus. On oublie la finalité. Je crois que tout courant d'ontologisme qui oublie la finalité nécessairement tombe dans le panthéisme. Ça ne peut pas être autrement. On tombe dans le panthéisme. Et alors, le panthéisme ultime, voyez, c'est de faire de la matière l'esprit. De mettre l'esprit dans la matière, si vous voulez. Alors, quand on met l'esprit dans la matière, théiar. C'est très net. On met l'esprit dans la matière. Et ça, il y a un petit reste d'Hegel là-dedans. Hein. Hegel assume la matière pour que la matière soit l'esprit. Et les disciples font l'inverse. Ce qui est assez normal. Mais c'est le même principe. D'où tout cela n'est que fausseté. Vous voyez, comme saint Thomas devient méchant. Le doux saint Thomas. Tout cela n'est que fausseté. Il ne peut pas que Dieu vienne d'aucune manière en composition d'une chose, soit comme principe formel, soit comme principe matériel. C'est impossible. Dieu ne peut pas composer. Il est tout à fait simple. Ça, c'est très, très important pour nous. Vous voyez, c'est la purification de notre intelligence dans ce qu'elle a de plus profond, de découvrir la simplicité absolue. Omnino simplex, la simplicité absolue de Dieu. C'est important pour éviter tout panthéisme.